tous. Je suis Mickaël Leclerc, donc l'animateur de cet atelier de formation pour cet après-midi. Donc, je suis directeur de l'entreprise adaptée et de l'ESAT d'APF Entreprise à Nancy. J'allais vous dire Ludre, mais c'est Nancy, c'est plus facile pour vous pour comprendre. Donc, nous allons parler cet après-midi d'un sujet qui est d'actualité parce qu'il fait partie de la dynamique sociale et de la dynamique inclusive aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. C'est comment satisfaire une partie de l'obligation d'emploi en développant les achats responsables dans l'entreprise. Donc pour cela, il va y avoir trois temps. Je souhaite que ce soit le plus fluide possible, hein, le plus convivial. Et donc, c'est pour ça que le troisième temps, je ferai appel à vous. Donc, dans un premier temps, je vais retracer un petit peu donc, la partie obligation d'emploi, la partie donc, achat responsable avec les enjeux et puis les moyens nécessaires ben, justement pour pouvoir matcher l'obligation d'emploi et les achats responsables. Dans un second temps, donc, je ferai intervenir donc, des experts et des témoins. Donc j'ai deux experts, enfin, j'ai un témoin donc en périphérie, donc c'est Monsieur Laurent Vital de chez Annecy qui interviendra. Et ensuite donc j'aurai deux experts donc d'une entreprise adaptée, donc Gabriel Reynal qui est à ma droite, et puis Joseph Ramos donc qui interviendra aussi pour vous expliquer aussi le contexte réseau hein, au niveau des achats responsables. Et donc, le troisième temps, je vous laisserai la parole. N'hésitez surtout pas donc, à nous poser des questions si des choses n'ont pas été claires durant cet atelier de formation. Formation qui se veut être claire, normalement. Alors, pour comprendre un peu les moyens de satisfaire l'obligation d'emploi de personnes handicapées. Donc, aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'AGFIP ou du FIP, hein, FIPHFP pour la partie publique, la première des choses, c'est de verser la contribution. Voilà, chose qui n'est pas tout le temps la plus agréable. Pour cela, donc, il y a des moyens de pouvoir donc, réduire sa contribution. Donc, il y a un nouvel élément qui est apparu il n'y a pas longtemps concernant donc, la loi Macron hein, sur les outils de modernisation et qui est de recourir aux travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc ça, c'est une nouveauté. Hein, donc n'importe quel travailleur indépendant aujourd'hui peut travailler pour une entreprise et ça pourrait être déductible de la contribution à verser. Vous avez aussi accueillir des stagiaires en situation de handicap. Donc ça aussi, c'est un point qui permet de limiter la précarisation et de professionnaliser donc, les jeunes en situation de handicap. Vous avez naturellement l'emploi direct, hein, donc par le maintien, par l'embauche, via les Cap emploi ou les Pôle emploi, mais vous avez aussi les contrats aidés, hein, donc tous les styles de contrats pro, contrats en alternance, contrats d'apprentissage, emploi d'avenir aussi, hein, donc vous pouvez trouver du public de travailleurs en situation de handicap. Alors vous avez cette partie-là que j'ai mis en rouge, hein, qui est l'achat de fournitures, et donc là justement, là je dis attention, prudence. J'imagine qu'ici, il doit y avoir certainement des acheteurs ou des entreprises qui ont déjà été confrontés à des appels ou à des démarches commerciales un peu agressives pour vendre des fournitures à 10 fois le prix. Il y a un manifeste hein, qui est paru de la plupart des associations, fédérations et autres réseaux hein, d'entreprises adaptées des ESAT pour dénoncer ces pratiques. Donc certes, il y a encore des entreprises adaptées, des ESAT qui font de la fabrication hein, de ce genre de fournitures. Donc pour cela, il est utile de savoir leur demander leur agrément, de demander à les visiter. Hein, parce que je vous ferai part aussi tout à l'heure dans le cadre de l'achat territorial, enfin dans le cadre de l'achat responsable, que l'ancrage territorial est prépondérant. Il y a énormément d'entreprises adaptées et des ESAT, il y en a à peu près 7000 hein, si on cumule l'ensemble, sur toute la France, je pense qu'il y a moyen que vous puissiez trouver dans votre bassin géographique de quoi trouver des activités. Donc attention prudence sur la partie fourniture, sur la déclaration, vous ne déduisez pour la partie privée que la part main d'œuvre. La partie fourniture, ce n'est bon je dirais que pour la partie publique, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Pour les grands groupes, vous pouvez aussi conclure un accord donc agréé de branches, de groupes, d'entreprises ou d'établissements. Donc là, il est primordial aussi d'intégrer dans ces accords un article concernant le secteur adapté et protégé. Donc, il arrive de nombreuses fois que ce soit essentiellement lié sur du diagnostic conseil, sur de la démarche de sensibilisation, sur du maintien dans l'emploi. Mais trop souvent, on a tendance à oublier d'y intégrer un article pour faire travailler le secteur adapté et protégé qui peut apporter énormément au niveau d'une entreprise. Et enfin, donc, le dernier point, c'est recourir donc, au secteur adapté et protégé par l'achat responsable. Alors, un petit point aussi qui est important, c'est que souvent on sait qu'on peut déduire à hauteur de 50% la contribution hein, donc de sa taxe. Et donc sur les 6%, ça peut aller jusqu'à 3%. Or, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on peut monter jusqu'à 3,6%. Alors, comment est-ce qu'on peut monter jusqu'à 3,6%? Certes, il y a les achats de production et de services hein, qui contribuent à hauteur de 3%, mais il y a aussi les dépenses déductibles. Donc les dépenses déductibles en formation et en investissement. Et ça correspond à 10% de la contribution. Et ça sert énormément au secteur adapté et protégé pour qu'ils puissent se moderniser au niveau de leur outil de travail et qu'ils puissent aussi faire monter en compétences les salariés et les usagers de leurs établissements. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier et c'est vraiment une démarche très co-constructive avec l'entreprise. Donc le premier levier. Pour diminuer le montant, hein, donc voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est faire travailler donc les secteurs adaptés et protégés. Bon, la formule AGFIP, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, donc que ce soit donc de la fourniture de travaux ou de la prestation de services, c'est un ratio de 2000 fois le taux horaire. Pour ce qui est de la mise à disposition de personnel, c'est 1600 fois le taux horaire. À cela, donc, il faut prendre le prix hors taxe du contrat. Auxquels donc on retire, comme je le disais tout à l'heure, donc les fournitures, hein, donc les matériaux, achats de matières premières, consommation, frais de vente, voilà, tout ça il faut le retirer et comme ça on a un chiffre d'affaires utile que l'on peut ensuite diviser soit par 2000, soit par 1600, bon sachant que si on est sur de la mise à disposition de personnel, le coût des matières premières est réduit. Pour le secteur public, c'est la même formule de calcul, sauf que là, à la différence, c'est qu'on est sur des prix TTC et qu'on y intègre également le coût des matières premières, produits, matériaux, consommation, frais de vente, via la commande publique et les clauses sociales. Donc, c'est vrai que là, on voit souvent des appels d'offres sur le secteur public où il y a encore beaucoup de marchés. Je crois que ça va être aujourd'hui à peu près encore 30% des marchés qui sont passés sur le secteur public sur la fourniture. Bon, ça a tendance à diminuer quand même, et c'est tant mieux, parce que les clauses d'insertion sociale nous aident beaucoup, et notamment l'importance des facilitateurs de marché public. Il faut savoir que dans chaque département, vous avez des maisons de l'emploi qui existent, et qui sont là donc pour tout ce qui est clauses d'insertion sociale, donc autant pour les SIAE, hein, donc les entreprises d'insertion par l'activité économique, mais aussi les EA et les ESAT. Et donc ces facilitateurs sont là pour tous les organismes publics, pour les aider donc à allotir leurs appels d'offres, sachant qu'à partir du 1er avril aussi, donc ce qu'on appelle l'article 15 va se transformer en article 36.1 ou 36.2, si mes souvenirs sont bons. Et donc il y a vraiment un intérêt encore plus fort aujourd'hui à faire intervenir donc ces secteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors maintenant, pour matcher avec les achats responsables, une petite définition sur les achats responsables. Donc l'achat responsable, il correspond donc à tout achat d'utilité sociétale, intégrant dans un esprit d'équilibre entre parties prenantes des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social et du développement économique. Donc l'acheteur va rechercher. Et je pense que M. Vital aussi pourra témoigner là-dessus. Il va rechercher forcément l'efficacité, l'amélioration de la qualité des prestations, l'optimisation des coûts globaux, donc au sein d'une chaîne de valeur, et il va en mesurer l'impact. Donc on est dans un schéma classique hein, donc de relation entre les achats et le prestataire, mais avec un impact qui sont les trois piliers qu'on va retrouver donc, ici. Donc le pilier économique, le pilier social, et le pilier environnemental. Ces trois piliers sont fondamentaux, ils sont interreliés si et seulement si la gouvernance l'a décidé. C'est-à-dire que c'est un impact de dirigeant d'entreprise. Si le dirigeant d'entreprise ne se lance pas dans cette démarche, on ne pourra pas avancer sur ces trois piliers. Et donc, qui dit avancer donc sur ces piliers d'achat responsable, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des achats durables, donc sur la partie donc pilier environnement, et des achats solidaires. avec le pilier social, d'où l'importance de l'ancrage territorial. Voilà un peu pour la définition de ce qu'est un achat responsable et comment on peut le mettre en cohérence justement avec le secteur adapté et protégé. Donc là maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Hein, on va chercher un peu les moyens et les objectifs qui sont attendus. Donc le processus d'achat donc vers le secteur adapté et protégé. Donc cela, donc Joseph Ramos pourra en parler, car je me suis basé donc sur un des livres des achats responsables, hein, qui est édité par Andeco et Corum. Donc déjà, c'est apprendre à se connaître. Voilà, souvent, hein, et j'entendais ça encore ce matin lors d'une intervention, on ne connaît pas encore suffisamment les EA et les ESAT, il y a un problème de lisibilité, il y a un problème de rituel dans la communication. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les EA et les ESAT, dans le cadre de la loi Hamon, aujourd'hui, elles ont un agrément solidaire d'utilité sociale. Tout à l'heure, quand je vous disais, si vous vous faites appeler hein, sous forme de racolage, demandez déjà quel est l'agrément de l'entreprise adaptée. Ça, c'est essentiel. Sinon, pas d'agrément, on peut commencer à avoir des doutes. Donc, ensuite, cet agrément permet donc de définir que c'est une entreprise d'utilité sociale, une entreprise solidaire. Donc déjà, c'est déjà un premier point qui est assez intéressant dans le cadre des achats responsables. Ensuite, il faut convaincre donc le prescripteur et le donneur d'ordre. Donc pour cela, on a les réseaux qui interviennent. Donc voilà, on a donc Andeco qui est juste à côté, mais il y a d'autres réseaux hein, qui sont présents aujourd'hui au niveau du salon, qui sont là aussi pour accompagner les prescripteurs et les donneurs d'ordre. Ensuite, rien n'empêche les EA et les ESAT dans leur démarche commerciale d'avancer aussi sur ce point, naturellement. Et comment ils avancent sur ce point? C'est dans l'accompagnement de l'expression du besoin. Voilà, parce que souvent, on est sur les stéréotypes ou les archétypes du style, bah tiens, voilà, les EA et les ESAT font de la blanchisserie, font du nettoyage, font des espaces verts, voilà, font du recyclage. Mais aujourd'hui, il y a une tendance à chercher à innover, à chercher d'autres prestations. Alors, c'est clair que là, on va se retrouver avec une multitude de prestations, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises adaptées, beaucoup d'ESAT sont là pour être des facilitateurs de votre quotidien. Voilà. Donc quand on parlait d'allotissement tout à l'heure pour le secteur public, c'est pareil aussi pour les entreprises privées où on peut travailler sur du kitting, sur des prestations justement qui permettent d'améliorer la productivité ou l'image de l'entreprise. Donc pour cela, il faut identifier l'offre de service. Donc il n'y a pas que les rencontres avec les achats qui sont importants, les rencontres avec les ressources humaines et les services comptables sont importants pour pouvoir justement recenser quels sont les fournisseurs, quels sont les types de produits qui sont achetés. Et dans quel cadre l'entreprise adaptée ou l'ESAT peut intervenir. Ensuite, ben, c'est schéma logique. Hein, donc, c'est engager une relation de confiance professionnelle en limitant les risques. Hein, donc, dès lors qu'on a établi tout en amont que c'est une véritable entreprise adaptée, un véritable ESAT qui sait faire la prestation ou que l'entreprise l'accompagne par la formation et l'investissement, on va déjà limiter les risques et puis on va maximiser les enjeux. Et ensuite, donc, ben, ça va être une relation commune, hein, entreprise, fournisseur, avec voilà, suivi de la qualité, de la réactivité, du respect des engagements et une création de valeurs mutuelles. Alors, les principaux objectifs pour ces achats responsables vers le secteur adapté et protégé, c'est quoi? Il y en a cinq, hein, ça va pas chercher bien loin, mais ils sont vraiment essentiels. C'est le respect des valeurs sociales et sociétales. En premier lieu, donc, c'est améliorer l'employabilité des personnes en situation de handicap. N'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est quand même le double en termes de taux de chômage pour les personnes qui sont en situation de handicap par rapport au milieu ordinaire. Ce sont des personnes aussi, beaucoup, hein, qui sont en accident du travail ou qui sont en reconversion pour la plupart. Et donc, elles ont besoin de se reprofessionnaliser, de pouvoir reprendre confiance en elles, de monter en compétences et d'avoir des emplois durables. Donc ça, c'est déjà un premier aspect qui est le respect de ces valeurs-là. C'est la réduction des risques environnementaux. Comme je vous l'ai dit, il y a 7000 entreprises adaptées et ESAT. Il y a de quoi privilégier l'ancrage territorial, véritablement. C'est l'amélioration de l'image de l'entreprise et du secteur adapté et protégé. Ça aussi. Hein. Donc, quand on a cette relation qui est créée, c'est vrai que vis-à-vis du bassin, du réseau, des politiques, c'est toujours intéressant de faciliter ces ancrages, comme avec les entreprises d'insertion, par exemple. C'est aussi le développement économique et le maintien de la croissance de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion de la fertilisation croisée. Donc, ça, tout à l'heure, M. Vital pourra vous le dire, mais la fertilisation croisée permet à chacun de pouvoir s'améliorer et apporte à l'autre. Et enfin, donc, la dernière partie, c'est le levier de performance et d'innovation. Donc c'est de l'ouverture à des nouveaux métiers pour le secteur adapté et protégé, donc le monde du numérique par exemple, hein, le monde de l'impression 3D, enfin, il y a énormément de champs qui sont encore à exploiter là aujourd'hui, hein, et donc aussi des nouvelles pistes pour les travailleurs adaptés du secteur adapté et protégé, et on est sur une notion d'incubateur. Voilà. Qu'est-ce que demain, vous en tant qu'acheteur, vous en tant qu'entreprise, vous êtes prêt donc à délester et à accompagner donc vers les entreprises adaptées et les ESAT pour faire monter en compétences ces structures et ces salariés et usagers. Voilà donc les principaux objectifs et les principaux leviers, les principaux cliquets qu'il faut avoir donc pour favoriser l'achat responsable afin de remplir son obligation d'emploi. Alors pour tout cela, donc là maintenant, voilà, ce sont des belles paroles, hein, voilà, j'ai fait des beaux slides, mais ça c'est que bah, il faut passer de la parole aux actes. Et donc il y a des choses qui existent. Et donc bah, je vais laisser donc la parole à Monsieur Vital pour qu'il puisse donc donner des exemples
Merci
sur
bien.
ces points-là.
Donc je me présente, je suis Laurent Vital, je suis acheteur industriel chez Annecy depuis une quinzaine d'années. Annecy, d'abord vous situez ce que représente Annecy, c'est le H de LVMH, mais plus encore c'est le numéro 1 du Cognac. Ça représente un peu plus de 800 salariés sur Cognac et 6 millions de caisses de 12,70 centilitres expédiées dans le monde. À travers les prestations dont j'ai la charge dans les achats, j'ai en charge le co-packing notamment. Qu'est-ce que le co-packing? Ce sont des coffrets plus ou moins travaillés qu'on va confier à des partenaires extérieurs. Il y en a 7 qui prennent ces marchés-là. C'est un peu plus d'un million de caisses. Et pour venir sur le sujet du jour, deux ESAT, un EA travaillent sur ces prestations-là. À eux trois, ils représentent 20% de ce volume, ce qui est un chiffre d'affaires qui tourne entre 600 et 700 000 euros par an. Donc, sur cette partie, en point direct, on obtient un taux qui est assez fort, je pense, parce qu'on ne s'arrête pas aux 3% obligatoires pour ne pas payer la taxe AGFIP. L'année 2015 nous a permis d'obtenir un taux de 4,5%, ce qui est assez fort quand même. D'autant que la partie emploi direct, qui est gérée plutôt par les RH chez nous, elle, de son côté, se doit de tenir les 3% pour ne pas payer la taxe AGFIP, et elle, de son côté, a obtenu aussi 4%. Donc, à nos deux périmètres réunis, nous sommes largement au-dessus des objectifs qui sont retenus pour les sociétés en France. Juste pour revenir sur les prestations que je peux confier à mes partenaires locaux, il faut savoir qu'il y a un partenaire qui s'appelle l'Atelier d'Arche. Je ne sais pas si je peux citer des noms, ce n'est pas un souci. Ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec eux, donc c'est quelque chose qui est quand même intégré dans notre façon de voir les choses, d'associer ces partenaires-là comme les autres, d'autant plus qu'ils sont locaux aussi, ils sont sur Cognac. Juste pour dire que Cognac est une petite ville de 20 000 habitants, qui est connue partout dans le monde, mais on va les aider à nous accompagner au quotidien. À noter aussi que quand un nouveau projet de coffret est mis en avant par mes clients en interne, service développement, marketing, les responsables de ces ateliers sont conviés aux réunions pour nous accompagner aussi dans la conception, la réalisation du coffret, pour voir comment ils voient les choses, pour leur faciliter la tâche, pour confier ces prestations-là à leurs employés. Et ils sont vraiment au cœur de notre système au quotidien. Après, Monsieur Leclerc parlait des innovations. Je voulais juste évoquer un sujet qui s'est passé il y a quelques années avec un établissement adapté. Toutes ces belles bouteilles de cognac qu'on peut mettre en avant sur nos marchés, qui sont plutôt à l'export, 99%. Nous mettons des bouteilles dans des vitrines, sous les spots et compagnie. Les bouteilles de cognac, le cognac en lui-même n'aime pas beaucoup être chauffé, bizarrement, parce qu'il fait quand même 40 degrés. Donc il faut un liquide factice. Historiquement, nous avions développé avec un labo un liquide factice, mais qui coûtait très cher, parce qu'il revenait plus cher que le cognac, en fait. On nous a demandé de trouver une solution et finalement, plutôt que d'aller vers ces gros groupes qui, pour eux, représentent une petite niche, je me suis orienté vers Anoa, qui est basé à Cognac, et bien évidemment, pour qu'ils nous accompagnent dans la création de ce nouveau liquide, plusieurs teintes, suivant la qualité du cognac. Pourquoi je me suis tourné vers ce partenaire-là? Parce que l'idée, c'était de lui confier de la prestation de A à Z. C'est-à-dire que nous, on va lui donner les bouteilles, les étiquettes, les capsules, les bouchons, et tout ce qui compose le produit fini. Et lui, il va assembler. Et s'il assemble le produit final, il habille la bouteille, il le met dans le coffret, il la met dans la caisse et il l'expédie pour nous. Et bien, pourquoi il ne pourrait pas créer le liquide ? Donc, on a travaillé ce sujet-là. Et aujourd'hui, il est certainement l'un des seuls en France à savoir faire un liquide factice qui marche pour le cognac, mais qui peut marcher pour plein d'autres produits, que ce soit le parfum, le champagne et tout ce qui se consomme et se met dans des bouteilles transparentes. Voilà l'expérience que je voulais partager aujourd'hui avec ce point-là et qui est une vraie avancée, comme quoi il faut savoir leur confier, leur faire confiance aussi au travers les sujets qu'on va leur mettre en avant, parce qu'ils savent répondre, et pas que sur le liquide factice, sur les prestations de co-packing par exemple, on voit qu'ils sont plus à précaution que nos autres partenaires. On en a 4 autres qui sont beaucoup plus gros, qui emploient jusqu'à 150 personnes dans les pics d'activité. Mais ils ont su développer autre chose que finalement je ne trouve pas chez mes partenaires lambda. Et pour nous, c'est un certain confort et qui passe bien en interne. Voilà.
Merci, merci. Monsieur Vital.
Oui, je vais rebondir sur le mot confiance. Effectivement, c'est un élément indispensable. Et nous, au niveau de Reims, hein, on l'a vécu. Je dirais que les achats responsables ont permis à notre niveau une véritable dynamique sociale. Pourquoi ? Bah parce que sur Reims, à l'époque, l'entreprise adaptée que je dirige, eh ben, on était essentiellement sur de la sous-traitance industrielle de capacité, ce qu'on appelait essentiellement sur l'automobile. Bon, on connaît les années aujourd'hui, ce qui s'est passé. Et il y avait une véritable réflexion à faire. Ben, demain, de quoi, sur quel métier on va pouvoir se développer. Et en fait, donc en intégrant la philosophie aujourd'hui de la RSE, hein, d'avoir un axe sociétal, environnemental et puis économique, hein, bien évidemment, puisque si on n'est pas dans le prix du marché, ça va être difficile d'être durable dans le temps. Et on a travaillé avec la maison MHCS, hein, du groupe LVMH, sur des besoins. Hein, on partait sur des métiers innovants ou bien sur des métiers existants, puisqu'on voulait aussi créer ça localement, bien évidemment. Et donc on a travaillé ensemble. Et c'est vrai que le mot confiance est très important. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On apprend à se connaître. Et au lieu de développer des nouveaux métiers, des métiers innovants, on est parti sur développer des métiers qu'on réalisait à l'époque, mais sur des prestations, on va dire, basiques. Alors, on a parlé effectivement des espaces verts. Bon, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, mais on est passé, en fait, de l'entretien classique de site. Aujourd'hui, en fait, on a développé un bureau d'études et on fait aujourd'hui de la création, et notamment sur un projet aujourd'hui de rénovation de la maison Krug à Reims, on est pilote sur toute la partie externe avec une architecte qui va bien, des plans et des formations de personnel pour pouvoir, bien évidemment, traiter cette opération qui n'est plus de simple entretien. Et dans la réflexion aussi, c'était de développer, en connaissant les besoins du client, hein, sur une démarche constructive, le client aussi recherchait à l'époque de la blanchisserie pour ses vêtements, proprement dit. Hein, à l'époque, les personnes nettoyaient eux-mêmes les vêtements, donc la législation fait qu'il y avait une certaine évolution. Et surtout, voulait céder, chercher un prestataire pour l'entretien de toute la partie restauration de ces hôtels privés, puisqu'il y a des hôtels privés. Et donc là, ils nous ont accompagnés et on a développé une nouvelle activité sur un métier qui est connu, mais sur des métiers de niche en associant qualité et surtout ponctualité. Donc l'échange s'est fait dans les deux sens, hein, pour bien évidemment se connaître, nos équipes connaissent aussi les exigences du client, hein, on est dans le luxe, hein, et le luxe, le délai est impératif, hein, c'est quelque chose, il faut trouver des solutions. Voilà, donc c'était en fait les deux axes importants, et j'insiste, hein, sur le fait d'échanger et bien de se connaître, c'est primordial pour pouvoir engager de la co-construction ensemble sur la durée, et il faut faire confiance.
Merci messieurs. Du côté du côté de l'Est. Donc là, maintenant, on va passer donc, du côté d'Ondeco, donc, oui, sur la partie réseau donc, qui rayonne sur toute la France et qui va nous faire donc, partager son expertise.
Alors, partager partie de l'expertise, parce que c'est vrai qu'on pourrait passer toute l'après-midi ensemble sur ce sujet qui est, ma foi, fort passionnant. Alors, juste rebondir sur deux mots qui ont été prononcés par notre ami Michael sur la performance et l'innovation. Peut-être en préalable, Michael, rappeler que ce n'est pas 7000 structures, c'est 2000 structures ESATEA. Alors ça, c'est peut-être, toi, tu as les chiffres du service comme de la présidence ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est 2000 établissements, 2100, 700 EA et 1400 ESAT, et ça pèse à peu près 150 000 collaborateurs en emploi, travailleurs handicapés en emploi. Donc juste, c'était le préalable. Donc sur la performance et l'innovation. Alors on va... Je regarde l'heure qui tourne, c'est jusqu'à moins le quart, l'atelier. Sur l'innovation, sachez par exemple qu'une entreprise adaptée comme APR2, moi je cite, hein, je n'ai pas peur de citer, hein, elles sont toutes référencées sur notre site et je vous invite à nous rejoindre en P10, P11 tout à l'heure avec les collaborateurs pour voir un peu ce qu'est le site internet. Donc vous avez référencé les 2100 structures avec les quelques 2400 activités qui ont été référencées sur le site, hein, avec des activités dire traditionnelles et des activités un peu de niche, un peu innovantes. Je reprends sur APR2, qui est une entreprise qui fait de la D3E, ce qu'on appelle la D3E, la déconstruction d'équipements électriques et électroniques, et qui a déposé là un brevet mondial sur la séparation des polymères, c'est les plastiques si vous voulez, hein, le retraitement des ordinateurs, faisant court, et c'est retraité en mobilier urbain. Donc ces ordinateurs, quand vous entendez le dirigeant, ils sont deux sur cette table, et il dit que c'est comme dans le cochon, tout est bon, donc tout est retraité. Et en fait, ils retraitent ces ordinateurs en bac à fleurs. Par exemple, vous les retrouverez sur le Café de la Paix, devant le Café de la Paix, là, sur Paris. Mais vous les retrouverez dans du mobilier urbain, les tables de pique-nique, hein, sur les aires d'autoroute. Tout le monde aime ça, les aires d'autoroute. Donc ces bacs de pique-nique, sachez que c'est du plastique en général qui est retraité et qui est retraité par des établissements, donc du secteur, des secteurs protégés et adaptés. Ça, c'est sur la partie innovation. Sur la partie performance, qui est en fait l'entrée forte de ce secteur. On a parlé du maintien dans l'emploi, du recrutement, hein, c'est les autres parties de l'obligation d'emploi. Mais sur cette partie performance, puisqu'on est sur un triptyque que vous connaissez bien, vous êtes des acheteurs donc, ou des prescripteurs, ou en tout cas des gens d'entreprise, sur le prix qualité délai. Et c'est vrai que là, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que soit vous faites des prestations de qualité et on peut développer des partenariats et envisager, comme avec le H de NCI, mais je rappelle qu'il y a un H en déco aussi, mais on peut aussi envisager des partenariats de 30 ans. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de... vous savez, les entreprises, hein, elles achètent, mais elles achètent de la qualité. Si vous n'avez pas de qualité, ce n'est pas parce que vous êtes entreprise adaptée ou ESAT que vous vendrez vos prestations ou vos biens. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Le philanthropisme n'existe pas dans le secteur. Donc ça, c'est important, la qualité et l'entrée par la performance. Et je vais vous raconter une autre belle histoire de France Télévisions, en fait. France Télévisions qui a commencé à sous-traiter sa partie espace vert sur ses deux sites franciliens. Ils ont ensuite passé un accord cadre sur la D3E, donc aussi pour le démontage de partie des plateaux techniques de France Télévisions. Ils sont passés au journal interne, c'est une diffusion de 10 000 impressions qu'ils ont sous-traité, pareil, un établissement du secteur. Et la dernière action, la dernière intervention, c'était sur de la co-traitance, un marché de co-traitance, c'était sur l'équipe de restauration du plateau de Plus belle la vie à Marseille. Donc c'est vrai qu'il y a 3 ans, si on nous avait dit, et France Télévisions ne serait de toute façon pas parti il y a 3 ans sur ce type de marché, ils le font aujourd'hui parce qu'ils ont des prestataires, des fournisseurs de qualité, et ils le font, ils avancent pas à pas, je dirais, en maturité. Un autre exemple, mais je m'arrêterai là parce que je pourrais vous en donner à l'appel, pensons au groupe La Poste, qui du quota tout à l'heure. Il y a 3 ans, ils étaient à 1,8 en termes de quota. Ils sont aujourd'hui à 5,27 au secteur. Ils sont passés de 9 millions d'euros d'achat hors taxes à 14,5 millions sur 3 années. Donc il y a tout un travail à la fois de mutualisation, d'essaimage d'activités qui marchent bien. Et aussi, on est sur un certain nombre d'activités métiers. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va, et c'est là où va être l'intérêt d'un organisme intermédiaire qui ne touche en rien le chiffre d'affaires des établissements pour lesquels ils travaillent. L'intérêt, c'est de sécuriser vos achats. C'est-à-dire que bien en amont, c'est de travailler sur... On parlait des besoins. Mais c'est, on fait souvent du sourcing de compétences bien avant de déclencher des achats, qu'ils soient publics ou privés, qu'il y ait article 15 ou pas. Et ça, c'est important parce que vous êtes, vous, acheteur, vous avez des prescripteurs internes, des DIRCOM et autres, et il ne faut pas se tromper. Et on ne peut pas se tromper. Donc, vous avez en face de vous de vrais professionnels. Ça fait quelques années qu'on est dans le secteur des réseaux. C'est un secteur qui est monté en professionnalisme de manière très, très importante ces dernières années. Et vous avez là la chance d'avoir réuni LVMH, réuni la 70 des 2100 acteurs sur le plan national. Et vous avez déjà le top 100 des établissements et une vraie palette de vrais métiers, de vrais services. Voilà, on pourra continuer après. Peut-être une dernière annonce, si tu m'y autorises. On a, avec les éditions d'Allos, publié un guide qui va être réactualisé, qui est d'ailleurs, qui fait partie des ateliers. Et je dois sauter à 3h moins le quart sur l'atelier, sur le guide d'Allos. Je vous invite à y participer. On vous offrira gracieusement ce guide. En tout cas, on a une cinquantaine. Il ne faudrait pas que vous soyez 100 parce qu'on va être embêté. Mais si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir à partir de 3h moins le quart sur le guide d'Allos et puis après sur notre stand. Voilà, je m'arrête là.
Merci pour cette publicité. De toute façon, là, on est complètement dans les temps. Alors maintenant, donc, on est sur le troisième temps de cet atelier. Donc, c'est le temps où je vais vous faire un peu travailler. Je sais qu'on est post-digestion, hein, après le repas. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là, justement, pour y répondre. Donc, voilà, la parole est au public. Je vous écoute. N'ayez pas peur, hein. Et ne laissez pas s'installer le silence, c'est important.
Ta présentation était visiblement très claire, puisqu'elle n'amène pas de questions de la part du public.
Oui, monsieur. Oui. D'accord. Alors, je vais faire ce rappel. C'est vrai que on m'avait aussi posé la question déjà ce matin, donc je vais l'expliquer. Sur la déclaration que vous faites à la GFIP, sur le CERFA, tout à la fin, tout en bas, c'est marqué « dépenses déductibles en formation et en investissement pour le secteur adapté et protégé ». Donc ça, c'est une petite ligne qui est tout en bas et qu'on a tendance à oublier et qui peut aller jusqu'à 10% de la contribution que vous devez payer. Donc vous payez 20 000 euros de contribution de taxe à GFIP, vous pouvez mettre déjà 2 000 euros. Donc, pour aider votre entreprise adaptée ou les ATEC avec lesquels vous fonctionnez, donc sur de la formation ou sur de l'investissement, sur du matériel. Donc, par exemple, vous avez un business avec et puis il y a besoin de le développer. Et ben voilà, vous contribuez par l'achat du matériel, de l'outillage et de la formation vers ce secteur adapté et protégé. Alors, pourquoi j'ai marqué 3,6 ? C'est vrai que c'est très vendeur, hein, mais c'est parce que déjà, pour être à 3,6, il faudrait être à 0% de contribution. Donc, imaginons que là, aujourd'hui, vous soyez à 3%. Si vous voulez encore grappiller un peu, voilà, ça fait 3,3%. Voilà, vous voyez un petit peu la méthode de calcul, hein. Mais surtout, ne l'oubliez pas. Regardez bien. Alors, je sais que ce CERFA, il est fastidieux à remplir. Hein, il y a des trucs dans tous les sens, dans tous les coins. Mais ça, c'est que cet élément, il est vraiment très important et il nous permet de nous professionnaliser, il nous permet de faire grandir nos usagers, nos salariés, comme par exemple aussi la taxe d'apprentissage. On n'y pense pas aussi, mais ça, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un décret qui est paru l'année dernière qui facilite donc l'accès pour les ESAT pour collecter la taxe d'apprentissage. Donc voilà, par exemple, moi, sur mon ESAT à Ludre, l'année dernière, j'ai récolté 15 000 euros, qui m'a permis donc de mettre en place des socles de compétences dans la lutte contre l'illettrisme. Et je peux vous avouer que ce n'est pas du luxe, hein, et ça fait beaucoup de bien d'avoir cet argent-là. Et donc, ensuite, on peut monter en compétences toutes ces personnes qui sont très, très éloignées des phénomènes d'éducation, de scolarité, etc. Donc, voilà. Donc, la taxe d'apprentissage, certes, mais là, ici, pour en revenir donc, sur ces 10%, n'hésitez pas donc, à passer un tout petit peu de temps sur cette déclaration et vous verrez, c'est clairement indiqué. Hein, donc, c'est marqué « dépenses déductibles en investissement, en formation et investissement vers le secteur adapté et protégé ». J'ai répondu à votre question. Madame ?
Non, il y a un poste de 11 dépenses. Il y a l'aide des associations. Enfin, il y a un ensemble. C'est un arrêté de juin 2006, de mémoire.
Là, je vous ai mis les principales Hein, donc les principaux moyens de satisfaire à l'obligation. Hein, mais c'est ce qu'après vous avez encore voilà des petits détails. Mais voilà là c'est vraiment ce qui se fait le plus là aujourd'hui hein, quand on fait des analyses de statistiques.
Là il vendait son activité très clairement.
disons que là on est quand même sur voilà sur le premier salon des achats responsables vers le secteur adapté et protégé. Voilà, donc j'aurais pu vous parler aussi de l'emploi direct, hein, des contrats en alternance, etc., recourir aux travailleurs indépendants. Ça aussi, c'est un autre débat, hein, donc vis-à-vis de la concurrence du secteur adapté et protégé. Mais bon, voilà, j'en ai parlé parce qu'il fallait le faire. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, recourir au secteur adapté et protégé, c'est quand même un volume de salariés assez conséquent, même si je me suis trompé dans les chiffres tout à l'heure sur le nombre de AEDESAT, mais ça représente quand même plusieurs milliers hein, donc de personnes en situation de handicap dans 150 000. Voilà. D'autres questions ? Oui. On est hors quota. Alors, c'est hors quota catégorie A. Voilà. Et donc, il faut que ce soit... Alors, il faut que les CREFOS aient donné, par exemple, l'attribution. Hein, donc, parce que c'est dans le décret qui a été intégré dans le Code de l'action sociale et familiale, c'est marqué qu'on peut donner. Mais ce n'est pas une obligation. Et là, ici, dans le cas du regroupement des grandes régions, par exemple sur la partie Lorraine, Champagne, Ardennes, Alsace, donc l'année dernière, j'ai pu récolter la taxe d'apprentissage, mais avec la mise en place de la nouvelle grande région et puis des politiques gouvernementales, donc le gouvernement met l'État aujourd'hui principalement l'accent sur l'apprentissage, et donc ils ont décidé que les ESAT sur toute la grande région Est ne pouvaient plus récolter la taxe. Donc là, maintenant, c'est un gros débat qu'il faut avoir avec les structures paritaires, avec l'ARS, avec la directe, mais on est en bonne voie justement pour pouvoir la ravoir et qu'il puisse faire un additif pour 2017. D'autres questions ? Oui, c'est ça.
C'est ça. Et on ne doit pas enlever les unités bénéficiaires qu'on a déjà parce qu'on a recruté des handicapés.
Alors, imaginons qu'aujourd'hui, vous avez 100 salariés. Ouais. Voilà, donc 100 salariés, vous devez avoir 6 personnes en situation de handicap. Dans ces 6 personnes en situation de handicap, vous avez peut-être un salarié chez vous, donc en emploi direct. Donc, il vous restera encore 5 emplois à pourvoir. Dans ces 5 emplois à pourvoir, donc si on prend la catégorie donc des 6%, vous pourrez faire appel au secteur adapté et protégé, donc à hauteur donc de la moitié des 50% des 6% que vous devez. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est 3. Donc 3. Oui. Ah oui, non, mais après, je dirais que la contribution à la taxe, c'est ça aussi le message que je voulais faire passer. La contribution à la taxe, c'est le beurre dans les épinards. Aujourd'hui, travailler via les achats responsables avec les entreprises adaptées et les ESAT, ce n'est plus foncièrement aussi pour aller chercher des unités bénéficiaires. Comme je l'ai dit, c'est de l'ancrage territorial, c'est aussi les piliers économiques. Les personnes qui travaillent dans les ESAT et les EA font partie du bassin d'emploi hein, et contribuent à la richesse, richesse géographique. Et donc voilà, nous aujourd'hui, nos commerciaux, ils ne vont pas vendre de la réduction de taxes à GFIP. Certainement pas. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'entreprises qui atteignent leur quota, hein, voire même qui les dépassent, et qui travaillent avec nous. On a beaucoup d'entreprises qui ont moins de 20 salariés, qui ne sont pas contribuantes, hein, et qui travaillent aussi avec nous. Donc voilà, je dirais que c'est un levier qui sert encore aujourd'hui, mais qui sert de moins en moins. Hein, Joseph, je pense que tu ne me contrediras pas.
Oui, c'est vrai, parce que de toute façon, là, pour certaines, on arrive à 9 accords d'entreprise. Hein, donc la loi, elle n'est pas de 2005, elle est de 1987. Donc aujourd'hui, certaines ont dépassé le quota et continuent pour autant à investir sur ce secteur et sur le handicap en règle générale. On est bien dans une culture d'entreprise et une culture sociétale, là, pour le coup, et pas du tout pour les UB. Mais bon, sachez quand même que les UB, c'est quelque chose de fort encore.
Voilà, ce sont des images et des archétypes qu'il faut bannir. C'est bien pour ça aussi que vous êtes tous présents là aujourd'hui, hein, pour voir ce qu'on peut être en capacité de faire tous ensemble. Voilà, c'est une éthique qu'il faut avoir. Voilà, je pense que si vous allez tout à l'heure voir ce que va présenter Joseph Ramos, il va vous parler justement de tous ces éléments-là, hein, donc, où l'état d'esprit est en train de se transformer dans les entreprises. Le secteur adapté et protégé évolue, mais c'est à ce que les entreprises aussi changent leur état d'esprit. Et ça c'est quand même bien. On ne voit plus la personne handicapée que par son handicap. Aujourd'hui, on voit le volet compétences qu'elle peut déployer. Moi, je parle beaucoup de compétences compensées. Vous voyez un petit exemple concret, j'ai une personne en situation de handicap qui est très petite, c'est une lilliputienne. Voilà, elle n'est pas atteinte de nanisme, elle est très petite, elle est sourde et muette, et elle me fait de la soudure dans des salles blanches sur des prototypes que les machines ne peuvent pas faire parce que ça coûterait trop cher. Or, elle est en capacité de le faire. Et donc, du handicap, on a fait une compétence compensée. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il faut oublier cette notion de handicap. Hein. Ce sont des personnes à part entière. Il faut aussi tendre vers l'arrêt de penser tout le temps unité bénéficiaire. Non, aujourd'hui, il faut vraiment se tourner plus dans une culture de responsabilité sociale des entreprises. Hein. Cette crise, ça fait longtemps qu'elle dure. Et au lieu de penser tout le temps en crise économique, avant d'avoir une crise économique, on est aussi sur une crise morale. Et dès lors qu'on arrivera justement à pallier tous les problèmes liés au travail précaire, sur le public en insertion, sur le public en situation de handicap, et qu'on les mettra à l'œuvre, c'est un peu le miroir de notre société, c'est un peu le miroir de nous-mêmes. Donc voilà, là c'est un débat qui peut être philosophique, mais il faut aller au-delà de tout cela. Voilà. Et les achats responsables sont une solution concrète.
Juste à rajouter, en fait, hein, c'est que le SAP aujourd'hui est vraiment des entités qui sont très modulables et force de proposition. C'est un ensemble, en fait, de PME et il y a une multitude de richesses et c'est surtout, en fait, un dialogue qu'il faut instaurer entre vous. Vous avez des besoins, ne pas hésiter et il y aura sûrement une réponse, c'est sûr. Donc voilà, ça, c'est une démarche constructive et collaborative qu'il faut engager. Mais force de proposition, il y en a beaucoup.
Très bien. Bah écoutez, le temps imparti est terminé. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. De toute façon, nous sommes présents, hein, que ce soit donc, le groupe LVMH, que ce soit l'APF ou que ce soit en déco. Donc, on est présents sur les stands. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Et je vous souhaite une excellente journée.
Et